Il est 17h30, vous écoutez Radio Campus Paris et vous retrouvez tout de suite petite consultation entre amis.
Petite consultation entre amis, l'émission santé complètement déjantée de Radio Campus Paris.
Bienvenue à toi, cher patient, dans le cabinet de consultation un tout petit peu déjanté de Radio Campus Paris, dans lequel nous disséquerons l'actualité pour une émission spéciale folie, dans lequel nous parlerons de la différence entre les psychiatres, les psychologues, les psychanalystes, les psychothérapeutes. La piqûre de rappel sera consacrée à vol au-dessus d'un nid de coucou. La forclusion du nom du père, c'est l'expression rigolote. Le docteur Marion, vous nous parlerez eh bien, de toutes les phobies qui peuvent exister dans le monde de la psychiatrie. Et on se quittera avec le pire d'Internet, avec Nano, une jeune Finlandaise qui pense être née dans un corps de chat. À vos stéthoscopes, la consultation peut commencer.
Docteur, paraît que vous êtes docteur, parce que malade, paraît que je suis malade.
Ça y est, enfin, en direct sur le plateau de Radio Campus Paris avec une très belle brochette de spécialistes. Salut docteur Marion.
Bonsoir.
Une émission spéciale folie.
Tout à fait, on est
une
complètement
fous, colle.
On est fous.
On est fous ce soir, une émission qui nous colle à la peau.
Complètement
déjanté.
Ça commence bien.
Ça commence bien, salut docteur Léo. Vous êtes un peu la sagesse, heureusement,
oui,
dans cette émission.
Je suis d'une folle bonne humeur aujourd'hui. Allez, hop, le jeu de mots parfait. Ça commence très très fort.
On commence très très fort et on commence justement avec un petit tour de l'actu santé.
Alors cette semaine, ça mouque un peu du côté de l'IMPES.
Bonne blague, docteur Marion. Et oui, effectivement, les MOOC, vous savez ce que c'est? Ce sont les Massive Open Online Courses. C'est autrement dit les cours gratuits ouverts à tous et mis à disposition du public, généralement par des universités. L'INPES, qui est l'Institut National de Prévention et d'Éducation à la Santé, vient d'ouvrir un MOOC pour promouvoir l'activité physique et limiter la sédentarité chez les jeunes. En gros, ça se déroule sur 6 semaines, de mars à avril 2016, et ça demandera entre 1h et 2h de travail hebdomadaire aux inscrits. Le MOOC s'adresse à toute personne intéressée pour la mise en place de projets de promotion de l'activité en direction des jeunes, à savoir les professionnels du sport, de l'éducation nationale, des administrations sanitaires et sociales, les acteurs associatifs, les techniciens des collectivités territoriales, les élus, les professionnels de santé, enfin bref, un peu tout le monde et plein de monde.
Et c'est pour acquérir quelles compétences?
Alors au terme de 5 semaines du MOOC, les participants seront en mesure d'identifier les partenariats et outils pour faire vivre un projet intersectoriel et participatif sur l'activité physique et la santé des jeunes, et ils seront capables également de connaître les bases de suivi et d'évaluation d'un projet. Donc c'est plutôt pas mal, et tant qu'on est dans les MOOC, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur la plateforme FUN, FUN comme France Université Numérique. Il y a plein de cours gratuits en ligne, notamment sur la santé. C'est fait, on le disait, par des grandes universités. C'est vraiment bien fait, ça fonctionne bien. Vous pouvez même avoir des e-certificats à la fin des sessions de formation. En gros, MOOC est bien et MOOC est plus qu'il ne faut.
Très bien, deuxième info, nouvelle année, nouvelle résolution, arrêtez vraiment de fumer, c'est possible en se faisant aider.
Exactement, et petit clavier à notre réalisateur, alors un succès Étienne, cet arrêt du tabac, j'ai l'impression.
Oui, ça fait 10 jours.
10 jours, et donc comme Étienne, voilà.
Et du coup, il est devenu fou.
Il est devenu fou par contre. Donc arrêter de fumer, c'est souvent l'une des bonnes résolutions prises en début d'année. Et puis les mois passent et on ne tient pas vraiment sa résolution. Alors pour transformer l'essai en succès comme Étienne, la volonté ne suffit pas toujours et l'accompagnement est essentiel. Les outils mis en place une nouvelle fois par l'INPES, notamment le site Tabac Info Service, sont particulièrement efficaces. Pour encourager les fumeurs à essayer la vie sans tabac, l'INPES relance sur les ondes et sur le web sa campagne de communication.
Alors, pour motiver les fumeurs dans leur démarche d'arrêt, Tabac Info Service propose un numéro d'aide à l'arrêt du tabac, le 3989. Au bout du fil, des spécialistes accompagnent ceux qui veulent rompre avec la cigarette.
Tabac Info Service, Séverine, bonjour. Tout ce qu'on peut vous proposer, c'est d'en parler au téléphone avec une de nos tabacologues gratuitement.
Les tabacologues informent et proposent des conseils pratiques.
On fait en tout cas tout notre possible pour que ces personnes trouvent de l'aide et du soutien lors de leur démarche d'arrêt.
Première étape, réaliser un bilan de dépendance tabagique et déterminer une date d'arrêt. L'urgence pour le fumeur, c'est de gérer sa dépendance physique et psychologique.
La préparation, la motivation, ce sont vraiment les clés du démarrage, du début de l'arrêt du tabac.
Les tabacologues interrogent le fumeur pour connaître son environnement. Objectif, l'aider à dépasser ses craintes et surtout lui apporter des solutions adaptées.
On s'adapte aux dépendances, c'est-à-dire que les fumeurs qui n'ont pas de dépendance pharmacologique vont avoir besoin, eux, d'entretien motivationnel, de soutien, d'un accompagnement sur la ligne qui va être tout à fait différent.
Travailler sur la motivation, aider à bien se préparer pour augmenter les chances d'arrêt, c'est le plus de la ligne Tabac Info Service.
On s'est rendu compte qu'une année de suivi par un tabacologue, ça doublait les chances d'un arrêt définitif.
Le 3989, un numéro pour bien se préparer à l'arrêt du tabac, car quand on sait, c'est plus facile d'arrêter.
Mais alors, Tabac Info Service, qu'est-ce que c'est ?
Tabac Info Service, si vous avez bien entendu, c'est un dispositif d'information et d'aide à l'arrêt qui offre notamment la possibilité à tous les fumeurs d'obtenir un suivi gratuit par des tabacologues. Ce service est accessible par téléphone au 3989, c'est ouvert du lundi au samedi de 8h à 20h et c'est un appel non surtaxé. Le service offre même la possibilité d'être suivi gratuitement par le même tabacologue sur plusieurs entretiens. Un site internet tabac-info-service.fr et le site propose des informations sur le tabac, ses méfaits, des solutions pour arrêter, des outils, des services interactifs. L'internaute peut prendre conscience de sa dépendance, mesurer ses freins à l'arrêt, ses motivations réelles. Et il peut en outre s'inscrire, ça c'est nouveau, à un e-coaching, recevoir des emails personnalisés de soutien, de conseils, d'exercices. Et enfin, la nouveauté sur 2016, c'est une application pour les smartphones. Et ça permet également l'accès à ce e-coaching depuis son smartphone, propose des récompenses pour rythmer les progrès de l'utilisateur, des jeux pour passer l'envie d'une cigarette, et c'est évidemment toujours téléchargeable à partir du même site tabacinfoservice.fr.
Mais alors, est-ce que ça marche ?
Eh oui, ça marche, en plus ça marche. 22% des bénéficiaires d'au moins un entretien téléphonique avec un tabacologue sont non-fumeurs 6 mois après leur premier entretien, et 27% des bénéficiaires de l'e-coaching déclarent être non-fumeurs 3 mois après leur inscription. Donc plutôt cool ce dispositif, c'est gratuit, retenez le 3989 ou le site www.tabac-info-service.fr et c'est la fin des actus. Et on revient dans cette émission de folie, Docteur Marion. Et c'est complètement fou cette émission.
C'est fou.
Et bien cette semaine, vous allez essayer de nous expliquer en tout cas qu'il y a la différence entre un psychiatre, un psychologue, un psychanalyste, un psychothérapeute.
On va essayer. On va essayer de pas devenir fou avec tous ces termes. Bref, en tout cas, donc pour faire un petit peu le point, le psychiatre, c'est un médecin, c'est-à-dire qu'il peut prescrire des traitements, etc. Donc ça, c'est important de le retenir, à la différence du coup du psychologue clinicien qui lui, alors le psychiatre fait un soutien sur du plus long terme, le psychologue fait un soutien souvent par rapport à un événement en particulier. Lui, il peut être remboursé par la sécurité sociale s'il a été prescrit par un médecin au préalable, donc soit par le psychiatre, soit par le médecin généraliste.
Donc c'est-à-dire qu'on peut être suivi par un psychiatre et un psychologue.
Tout à fait.
Les deux n'ont pas forcément les mêmes fonctions.
Exactement. Le psychanalyste par ailleurs, lui, alors à la différence des autres, il a suivi d'abord une psychanalyse sur lui-même.
Ça, c'est pour pas qu'il devienne fou quand il écoute les patients, c'est ça ?
A priori, effectivement, pour pas qu'il perde la boule.
Et surtout, c'est pour éviter, alors dans le milieu, on parle de transfert contre transfert, etc. Quand les patients lui racontent des choses, pour pas que lui aussi se dise « Ah, ça me rappelle des choses, mais moi aussi j'ai eu ça avec ma propre mère !»
C'est ça.
Voilà, c'est surtout ça qui fait une psychanalyse, pour régler d'abord ses problèmes.
Ses problèmes à lui.
Exactement, avant de régler les problèmes des
tout
autres.
Tout à fait, parce qu'on en a tous. Voilà. Et
parlez pour vous, docteur Marion.
Oui, ça va, tout le monde va bien.
Moi je vais bien.
Oui, c'est pour ça qu'on fait une émission sur la folie d'ailleurs. Bref, voilà, en tout cas, et ces psychanalystes, au-delà donc de s'être fait psychanalyser eux-mêmes, ensuite ils ont suivi une formation pour pouvoir effectivement tenir les consultations, etc. Voilà, sur la méthode.
Mais ils peuvent être à la base médecins, donc ils peuvent être psychiatres et psychologues, si je ne m'abuse.
Voilà, tout à fait, puisque ça peut être leur formation de départ, mais ça peut ne pas l'être non plus. C'est-à-dire qu'un psychologue ou un psychiatre peut être psychanalyste à terme, et une personne qui n'est ni psychologue ni psychiatre, oh là là, on s'en mêle.
Ça devient compliqué.
peut être psychanalyste.
Et la psychanalyse, alors c'est très très long, hein, ça va de 5 à 10 ans, grosso modo, hein, celui-ci.
Oui, oh, c'est quand même un long travail. C'est un long travail sur soi-même.
Voilà. Il y avait un psychiatre qui disait « Mais quel beau voyage !»
Voilà, c'est bien, c'est un bien
voyage.
Résumé.
Et c'est un beau voyage.
C'est bien résumé. En tout cas, donc à la différence des autres, c'est-à-dire ce qu'on va appeler les psychothérapeutes, les coachs personnels, enfin tout ce genre de fonctions, ces personnes-là, elles, ne sont pas, sont des fonctions qui ne sont pas régies, qui n'ont pas été légiférées. Donc effectivement, il faut être très attentif à ça, et c'est là où je mets mon point d'attention, parce qu'on va retrouver beaucoup de charlatans en général.
Alors, pas tous.
Pas tous, absolument.
Il y avait eu un
pas.
Essai. Il y avait eu un essai effectivement dans la loi HPST là de eh bien légiférer sur le statut des psychothérapeutes. Ça reste quand même très très flou et pas mal de personnes peuvent accéder à ce statut. Voilà. Et ils n'ont pas forcément de formation ni médicale ni de la psychologie à la base.
Exactement. Puis ils ont pu faire des formations qui sont elles pas forcément reconnues. Enfin en tout cas voilà, c'est un peu un cercle vicieux. Voilà, très mauvais.
Et alors astuce malin, astuce radin, combien ça coûte tout ça?
Alors combien ça coûte? En général, le prix des consultations des psychologues et des psychiatres sont conventionnés, c'est-à-dire que ils sont rattachés à la sécurité sociale et donc les tarifs qui sont affichés peuvent pas devenir complètement aberrants à la différence des autres. S'ils sont conventionnés de secteur 1, il y a une partie qui est remboursable, comme on le disait tout à l'heure pour les psychologues. En tout cas, ce qui est bien, c'est que vous pouvez regarder le menu puisqu'ils sont obligés d'afficher les tarifs avant d'entrer dans le cabinet.
Et alors, pour les autres ?
Pour les autres, les tarifs sont très variables. Et là, il faut faire attention de ne pas y laisser votre œil ou votre bras.
Ah oui, c'est ça. Je me dis, bah, non mais alors, je vais beaucoup mieux. Par contre, je suis aveugle. Voilà. Je suis aveugle et
du
manchot.
Coup, voilà, exactement. Après, là-dessus, il y a un débat qui persiste, docteur Loïc, sur la nécessité du patient qui doit régler absolument sa consultation pour que l'impact en fait, de la thérapie soit meilleur et qu'il soit vraiment, comment dire, partie prenante dans la démarche.
Ouais, alors ça c'est un peu la caisse noire, notamment les psychanalystes utilisent ça et disent « Il y a une caisse, vous mettez l'argent que vous voulez,
délestez-vous de vos mots,
il faut que ça vous coûte cette thérapie. »
Et au sens,
c'est pas mal ça du coup, en tout cas ça fait de l'argent au black.
A priori, et ça fonctionne plutôt pas mal.
C'est
hein.
Pour moi.
Voilà, en tout cas on vous laisse méditer là-dessus et essayer de ne pas devenir fou.
Oui, complètement en tout cas, et pauvre.
Et pauvre, c'est surtout ça, pauvre. Sans bras et sans oeil.
Merci docteur Marion, et on enchaîne tout de suite avec notre piqûre de rappel.
Maintenant, la suite de nos informations.
Tout aujourd'hui, jeunesse de France.
Mes chers compatriotes,
nous avons fait une perfusion continue des artères coronaires.
Et on écoute Jeunesse de France, une voix hein, qui n'a toujours rien à envier à celle de Malraux, c'est celle de Dr Léo. Et cette semaine, vous nous parlez de Vol au-dessus d'un nid de coucou. C'est sorti le 1er mars 1976, si je ne m'abuse.
Ouais, exactement. Donc Vol au-dessus d'un nid de coucou, sorti le 1er mars 1976 de Mio Forman, avec en acteur vedette évidemment Jack Nicholson, qui assoit par la même occasion sa réputation. Alors le film va tout rafler aux Oscars de 1976 avec les 5 prix majeurs. C'est le jackpot. C'est l'un des seuls films avec New York, Miami et Le Silence des Agneaux à avoir fait une telle rafle sur les Oscars les plus prestigieux. Donc Vol au-dessus d'un nid de coucou, c'est l'Oscar du meilleur film, du meilleur réalisateur, du meilleur acteur, de la meilleure actrice et de la meilleure adaptation.
Ça fait 5, hein.
Ouais,
le compte est bon, c'est pas mal, correct.
Voilà.
Correct.
Et donc meilleure adaptation, parce que le film est tiré d'un roman du même nom, écrit par l'auteur américain Ken Kesey en 1962, livre qui avait déjà été repris d'ailleurs sur les planches de Broadway. Alors petite anecdote rigolote, enfin rigolote entre guillemets, Ken Kesey a trouvé que son œuvre était bafouée hein, dans cette adaptation cinématographique, ce qui l'a poussé à poursuivre en justice les producteurs du film, dont un certain Michael Douglas qui à l'époque avait 31 ans. Donc deuxième anecdote, Michael Douglas, il a remporté un Oscar en tant que producteur avant celui du meilleur acteur. Pas mal hein.
Pas mal. Dis donc, on a de l'anecdote consciente.
C'est la folie.
C'est un
hein.
peu ouf, c'est de la folie sur les anecdotes.
Et alors du coup, pourquoi le titre Vol au-dessus d'un
nid de coucou? J'allais vous le demander, Léo.
Et voilà, j'anticipe. Et tout simplement alors parce que l'histoire c'est survol à un hôpital psychiatrique, donc par une métaphore, c'est le nid de coucou, le coucou étant le fou. On suit donc le chemin de Mac Murphy qui interprète
coucou. Coucou.
Ça se détériore vite hein, quand même dans le studio. Hein. Donc on suit le chemin de Mac Murphy qui est interprété par Jack Nicholson et qui choisit de se faire interner pour éviter la prison. Il fait alors face à l'infirmière en chef Ratched, qui est psychorigide au possible, qui a décidé de ne plus jamais sourire de toute sa vie et à l'occasion de vider de toute l'humanité possible l'institution qu'elle dirige d'une main de fer. Au passage, et à propos de l'institution justement, dernière anecdote, le film a vraiment été filmé dans un asile et il y a même certains patients qui sont présents à l'écran qui font de la figuration.
Waouh, pas mal. C'est bien pour le secret médical en tout cas. C'est plutôt efficace.
Ça fait partie de la thérapie. Donc voilà, mais le film est surtout un hymne génial à la rébellion face à un endroit froid, rigoureux et brutal. C'est une lutte contre la folie de l'institution et son autoritarisme oppressant. Un combat pour une délivrance qui passe par l'audace de l'aventure et de l'amitié.
C'est beau l'amitié.
C'est beau. C'est un film poignant sur une bande de lunatiques épris de liberté. Une histoire d'homme attachant mais attaché où s'enchaînent les scènes cultes et les répliques folles.
Ça vous la coupe, hein, tant de demeurer de cinglés de minus à bas, hein. Un hourra pour Murphy le bandeur qui refait surface et qui chargé à bloc. Première fille que je vais sauter va s'allumer comme un flipper et je vais me taper de ses parties gratuites.
Eh oui, on a toujours été fan de poésie Radio Campus, mais on vous conseille donc ce film et on vous laisse sur cet appel à la révolte contre la violence aveugle. Ne vous laissez pas brimer, soyez fous.
C'est beau, merci. Et justement, on continue avec la folie avec cette première page musicale, le poinçonneur des lilas de Serge Gainsbourg, un mec qui devenait un peu fou d'ailleurs.
Je suis le poinçonneur des lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Y'a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière. Pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste les extraits du Reader Digest. Et dans ce bouquin, y'a écrit que dégasse la coule douce à Miami. Pendant ce temps que je fais le zouave au fond de la cave, paraît qu'il n'y a pas de saut métier. Moi je fais des trous dans des billets. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des trous de seconde classe, des trous de première classe. Je fais des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis le poinçonneur des lilas, pour un valide changé à opéra. Je vis au cœur de la planète, j'ai dans la tête un carnaval de confettis, j'en amène jusque dans mon lit. Et sous mon ciel de faïence, je ne vois briller que les correspondances. Parfois je rêve, je divague, je vois des vagues. Et dans la brume au bout du quai, je vois un bateau qui vient me chercher. Pour sortir de ce trou, je fais des trous. Des petits trous, toujours des petits trous. Mais le bateau se taille, et je vois que je déraille. Et je reste dans mon trou à faire des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis le poinçonneur des lilas, arts et métiers directs par le Valois. J'en ai marre, j'en ai ma claque de ce cloaque. Je voudrais jouer la fille de l'air, laisser ma casquette au vestiaire. Un jour viendra, j'en suis sûr, où je pourrai m'évader dans la nature. Je partirai sur la grande route, écoute que coûte. Et si pour moi il est plus temps, je partirai les pieds devant. Je fais des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Y'a de quoi devenir dingue, de quoi prendre un flingue. Se faire un trou, un petit trou, un dernier petit trou. Un petit trou, un petit trou, un dernier petit trou. Et on me mettra dans un grand trou, et je n'entendrai plus parler de trous. Je chope des trous, de petits trous, de petits trous, de petits trous.
Ah ça, y a de quoi devenir dingue en écoutant Radio Campus Paris. Petite consultation entre amis, on retrouve tout de suite justement les infos qu'il faut.
Quoi de neuf, docteur ?
Alors, quoi de neuf, docteur Marion ? On a des journées mondiales à gogo, hein ?
Tout à fait.
On en a, et avant toute chose, on a une première journée mondiale qui n'est pas vraiment de la santé.
Ouais, tout à fait, parce que même si ça n'a rien à voir, effectivement, avec notre domaine à nous, ça nous concerne et ça concerne nos auditeurs, parce qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la radio.
Eh oui, voilà, c'est cool.
On se fête.
C'est une journée folle, j'ai l'impression.
Tout à fait.
C'est une journée folle.
Alors,
par contre,
féliciter.
Demain, c'est la Saint-Valentin, mais il y a également une journée mondiale qui aura lieu demain.
Tout à fait. Donc, en quelques mots, demain, c'est la journée mondiale de la sensibilisation aux malformations cardiaques congénitales. Elle a été, en fait, donnée, enfin, l'élan a été donné par une association qui s'appelle SHIN, Congenital Heart Information Network.
Et vous parlez, mais anglais magnifiquement, docteur
voilà.
Marion.
C'est directement.
Et c'est,
voilà.
Et c'est sous leur impulsion que de nombreux États, comme des États-Unis, l'Australie.
United States of America.
Yeah, exactement. La République indienne, le Liban, les Émirats arabes unis, etc., qui ont accepté que cette journée soit proclamée officiellement. Voilà. Donc, on va la traduire en français, je ne le dirai pas en anglais, parce que je n'arrive pas à la prononcer. On va se moquer. C'est un peu ma folie. Donc, Congenital Heart Defect Awareness Day.
J'adore. C'est que vous pouvez le choper comme ça à Londres. Hein.
Oui, c'est ça. Donc, qui est donc bien la journée mondiale de sensibilisation aux malformations cardiaques congénitales. Alors, il naît chaque année en France entre 6500 et 8000 enfants portant une malformation cardiaque. cardiaque, appelé cardiopathie.
Cardiopathie congénitale.
Petit.
Salut Petit. Non, mais c'est le côté anglais.
Voilà. Cardiopathie congénitale. Voilà, donc ces malformations peuvent être plus ou moins invalidantes. Voilà. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'associations qui luttent pour permettre aux personnes atteintes de ces maladies de mieux s'insérer dans la vie, dans la société.
Et, un site à visiter ?
Reconnaître leurs droits, tout à fait. Donc le site à visiter, c'est www.ancc.asso.fr.
Et une deuxième journée mondiale cette semaine, lundi 15 février.
Tout à fait, c'est la journée mondiale de la sensibilisation au syndrome d'Angelman. Angelman, il y en a qui disent, et sinon Angelman. Exactement. Donc c'est une déficience du chromosome 15 qui crée des troubles très importants du développement et des troubles neurologiques, et ce syndrome est très visible physiquement chez les patients. Cette journée de sensibilisation est l'occasion de rassembler les familles de malades et de faire connaître cette maladie. L'association AFSA en France agit en ce sens, et je vous invite à regarder sur YouTube le dessin animé créé par l'association qui s'appelle Le Secret de Maëlle pour sensibiliser à la différence.
Nous sommes tous enfants du hasard, la vie est un joyeux bazar, rien n'est fixé d'avance, la vie jouée avance pleine d'imprévus, je vous aurais prévenu.
Merci docteur Marion, et merci pour cette petite chronique musicale, hein, du coup presque mieux que Coucou Hibou Coucou.
Le Bob était meilleur.
Allez, on enchaîne tout de suite avec notre expression rigolote.
O, D, I, maintenant L, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ?
Alors toujours dans cette thématique de folie, hein, complètement. Alors là, une expression mais qui est tordante. On va se tordre de rire.
On va rigoler là.
La forclusion du nom du père. Salut Jacques Lacan.
Salut Jacques. Oula, voilà. on rigole déjà.
Déjà voilà. On se marre, Jack.
Donc, théorie formulée en 1956 par Jacques Lacan, donc le célèbre psychiatre et psychanalyste français du XXIe siècle, les figures pour le moins controversées. Hein. Avec Lacan, il y a ceux qui aiment beaucoup et qui voient dans le personnage un génie, et d'autres qui ne le considèrent plus ou moins que comme un charlatan aux théories absurdes sur lesquelles ne se pavane que le milieu faussement intellectuel.
On dit pas mal de Jacques Lacan, oh là là, c'est incroyable.
Chacun son camp. Mais vous ferez votre idée après cette brève tentative d'explication de la forclusion du nom du père. Alors, comme souvent avec Lacan, la formule ne révèle pas d'elle-même ses secrets. Hein. Elle est assez brumeuse, donc on va essayer de disséquer ça un peu brièvement. Alors, la forclusion, déjà, chez Lacan, c'est un mécanisme de défense face à la psychose, la perte de contact avec la réalité. On l'affaiblit ensuite du nom du père, donc c'est plus ou moins une façon de revisiter le concept d'Œdipe. En fait, pour Lacan, le nom du père, c'est le symbole du désir de la mère pour la figure du père, mais qui ne va pas à l'enfant, ce qui permet à celui-ci de s'individualiser.
C'est tout à fait clair. Enfin, pour moi, ça me paraît...
Attendez, non, mais est-ce que s'il n'y a pas ce processus il en résultera des troubles au départ symboliques, mais qui auront des conséquences sur le réel. Alors vous affublez tout ça de termes tels que phallus, castration, signifiant, signifié, vous mettez tout dans un gros shaker et vous avez tout compris.
Écoutez, c'est juste un dysfonctionnement sinusal des artères aortiques qui provoque une légère hémosensibilisation valvulaire des canaux sphénoïdes. Hein. Mais vous n'avez aucun mot de tête.
Voilà, alors on revient sur Terre, on quitte immédiatement Lacan pour revenir à des expressions un peu plus à la cool sur la folie. Hein. Il est assez intéressant de constater qu'il y a un million de façons de dénommer le fou, la folle. Hein. C'est le malade, la déséquilibrée, celui qui est barge, celle qui a un grain, l'aliéné, le névrosé. Hein, il y a tout un champ lexical de la mécanique aussi qui est souvent affublé à la folie, hein, être pété aux manettes, avoir pété une durite, tête à chaise.
J'aime bien pété aux manettes.
Hein, c'est
complètement pété aux manettes.
Pété aux manettes, le docteur Loïc aujourd'hui.
Ouais, pété au casque aussi, du coup.
Pour la journée de la radio, c'est pas mal. Bon, alors au final, la folie, c'est un thème de prédilection pour plein de disciplines, hein, la médecine évidemment, mais aussi la philosophie et la sociologie. Hein. Il y a Foucault, qui était fils de médecin d'ailleurs, avec son histoire de la folie à l'âge classique, la littérature. On a Bukowski, les contes de la folie ordinaire au cinéma. On a parlé de vol au-dessus d'un nid de coucou et Fight Club, etc., etc. Alors toutes ces analyses et toutes ces dénominations de la folie, elles posent la question des raisons de celle-ci, de sa construction et de sa perception. Finalement, on peut être fou de tout, on peut être fou malade mental, avoir la folie des grandeurs, faire des dépenses folles ou tout simplement être fou d'amour.
Oh, c'est beau, c'est beau.
Et voilà, du coup derrière
Elle court la maladie d'amour.
Ah là là, ça n'arrête pas. Elle est comme ça dans les rues.
Ouais, j'ai cité du Michel Sardou.
Pas mal. Et voilà, donc du coup derrière le terme, pour décrire le fou, se cache aussi une représentation de celui-ci. En conséquence, un traitement particulier se cache aussi peut-être là un outil de domination, de discrédit, on ne sait pas. Mais comme le rappelle Audiard, hein, Audiard père, heureux soient les fêlés, ils laisseront passer la lumière.
Merci beaucoup, docteur Léo, pour cette piqûre de rappel. Et enchaînons toujours dans cette thématique folie, et bien sur le mot du médecin.
Docteur, paraît que vous êtes docteur, parce que malade, paraît que je suis malade.
Alors cette semaine, Docteur Marion, vous nous parlez des phobies.
Tout à fait, on va parler des phobies. Alors juste, je vais faire un petit rappel pour démarrer de qu'est-ce que la phobie. Donc la phobie est définie dans le Larousse comme une crainte angoissante et injustifiée d'une situation, d'un objet ou de l'accomplissement d'une action. Ou une aversion très vive pour quelqu'un ou peur instinctive de quelque chose. Et l'exemple cité est avoir la phobie de la foule.
Pas mal. Alors justement, est-ce qu'on peut se faire un petit tour des meilleures phobies?
Tout à fait. Donc, pour commencer...
Alors, vous nous les citez, on essaye de savoir ce que c'est.
Voilà, je vais essayer de... On va voir si vous suivez et si vous êtes pas mal au niveau folie. Alors, pour commencer, qu'est-ce que la cypridophobie?
Ça commence très mal. Hein.
La cypridophobie.
C'est pas les gens qui ont peur des gens qui s'appellent Cyprien, par exemple?
Non, 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 pas vraiment. Alors ça n'a rien à voir. Je pense que c'est difficile à déceler.
Les gens qui ont peur des cyprès, par exemple. Ah, moi, je suis
cyprien. J'aime pas trop les sapins. Voilà, c'est ça. Non, pas du tout. En fait, il s'agit des gens qui ont peur des prostituées.
Ah, d'accord,
ça existe.
Ah ouais, alors, j'avais pas la racine.
Tout à fait. Et alors un autre un peu plus simple, qu'est-ce que la corriganophobie?
Ah, la peur des corrigans.
Alors c'est pas loin, du coup on peut généraliser, les corrigans sont une sorte de
lutins,
donc c'est la peur des lutins.
La peur des lutins.
Tout à fait. Alors est-ce que vous savez comment est-ce qu'on nomme, parce qu'effectivement ça existe, et attention, la peur du papier toilette. Et il y en a qui l'ont, voilà.
La pécurophobie. Hein. Voilà.
Non, c'est la papétolétophobie.
Oh, pas mal.
Papétolétophobie.
Oh, c'est bien, ouais. Ça fait un peu peur des papés aussi, la gérontophobie, qui est la peur des personnes âgées.
Exactement, ça peut faire penser à ça. Et puis bon, une petite dernière peut-être pour la route, la cruciverbophobie.
La peur, alors ça je l'ai, la peur des mots croisés.
Oui, exactement. Oh. Alors je sais pas, on lit un magazine, le matin dans le métro. Il y a des... panique, il y a des mots croisés.
Ouais, du coup.
Ah là, mon Dieu, horrible.
Blocage.
Alors je sais pas comment on peut dire la peur d'avoir votre chronique, par exemple, la Mariano-chronicophobie,
oui,
par
la
exemple.
La Mariano-doctorophobie.
Merci beaucoup en tout cas pour cette chronique sur les foules, enfin folles et sur les phobies. Et enchaînons justement avec notre forum internet.
Quand je fais pipi, c'est plus jaune que d'habitude.
Alors justement, cette semaine, on part en Norvège avec Nano. Alors Nano qui a 20 ans et qui pense être un chat coincé dans un corps d'humain depuis 4 ans.
Ah quand même.
Ouais, on est plutôt pas mal. Hein. Et donc elle révèle ses félines aptitudes à la presse norvégienne. Je suis née dans la mauvaise espèce, soutient Nano. À 20 ans, cette jeune Norvégienne est convaincue qu'elle est un chat. Entendons-nous, elle n'est pas devenue un chat, elle ne joue pas à imiter le félin, elle est née chat. Alors on se confie... Ah ouais, non, mais c'est terrible. On se confie à la télévision locale, la jeune raconte son histoire. Elle a découvert sa véritable nature, si l'on peut dire, il y a 4 ans, quand les docteurs et les psychologues ont trouvé mon problème. Le problème en question, selon Nano, viendrait d'un défaut génétique à naissance. Nano est donc un chat, mais coincé dans le corps, dans un corps d'humaine. Pour preuve, la jeune ronronne, miaule, feule. Ah, vous savez, le feule, c'est le...
Oui, c'est ça.
Ouais, on le fait bien.
Ah oui, ouais.
Dès qu'elle croise un chien, par exemple, elle se déplace à 4 pattes, elle pourchasse les souris. Voilà. Et donc, voilà. Mais elle semble très bien s'en accommoder. Elle dit, bah, c'est bien, j'ai des avantages quand même. Je vois mieux que les gens normaux, je vois mieux
elle
dans le noir. Exactement,
c'est
elle nyctalope. C'est bien sûr pratique pour chasser les petits animaux. Voilà. Donc, et alors, l'avantage, c'est qu'elle n'est pas seule hein, dans cette aventure. Ah. C'est qu'elle a son meilleur ami, Sven, du coup, qui a également des personnalités multiples. Et coup de chance, l'une de ces personnalités, c'est un chat. Voilà, donc les deux compagnons peuvent donc communiquer en miaulant à pleinement, à plein gosier, pardon.
Des jolies conversations.
Exactement. Ouais. Alors elle dit, oui, mais attention, c'est un peu différent. Sven est un humain, et il y a quelqu'un dans sa tête qui est un chat, alors que moi, je suis née chatte.
Ah,
grosse différence.
Ah oui.
Voilà. Bon, en gros, un petit diagnostic actif. Hein. À mon avis, ça sent un peu la schizophrénie. Hein. En tout cas, la psychose bien frappée dans cette histoire. Un petit coup de neuroleptique là-dessus, ça devrait pas faire de mal. Voilà, en tout cas, ce qu'on en pense. Et ce qu'on en pense surtout, c'est la fin de l'émission. On se vous dit la semaine prochaine. Mais oui, du coup.
On n'aura pas de bref de salle d'attente.
Pas de bref de salle d'attente. Vous pouvez retrouver sur notre site internet www.radiocampusparis.org. Juste après nous, Tropical Club. Et puis, l'œil à l'écoute juste après nous et Tropical Club. À 19h, on vous embrasse, on vous dit à la semaine prochaine.
Bonne soirée,
allez,
soyez fous.
Bisous, soyez fous.
Restez fous.
Soyez fous. Allez, salut, on vous embrasse, bisous. Ciao.
Saint Cole.